Alors, Jules Girard, vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Rouen, membre du groupe de recherche Innovation et Société et rattachée à l'équipe Enquête, Terrain et Théorie du Centre Maurice Albache. Et votre thèse a porté sur les trajectoires résidentielles des pavillonnaires des classes populaires à partir d'une enquête menée au sein d'un territoire périurbain et industriel. Donc avant de vous laisser la parole pour que vous présentiez vous-même votre ouvrage, je vous propose de dire quelques mots sur le livre. Donc dans son ouvrage « De l'origine de la nature et des sentiments », Spinoza écrivait « J'ai pris grand soin de ne pas tourner en dérision les actions humaines, de ne pas les déplorer ni les maudire, mais de les comprendre ». Et cette citation me paraît décrire très bien la démarche sociologique que vous avez entreprise dans ce livre. Et loin de toutes les passions et de tous les commentaires excessifs qu'ont suscité les raisons du vote FN, surtout après l'élection présidentielle de 2017, vous appuyez votre analyse sur une étude de terrain menée depuis 2003 dans une commune périurbaine à proximité d'ici, à 40 km de l'agglomération lyonnaise. Et au départ, pourtant, lorsque vous commencez votre enquête, votre but n'est pas l'étude des comportements politiques, mais plutôt l'évolution de la condition ouvrière. Et d'ailleurs, si la question du FN apparaît en filigrane dans tous les chapitres de votre ouvrage, la question de ce vote FN n'occupe à proprement parler que les trois derniers chapitres. Et vous dites vous-même dans votre introduction que si votre enquête avait d'emblée commencé par un questionnement sur le vote FN, cette enquête n'aurait pas suscité le même intérêt chez vos enquêtés, le vote FN restant encore majoritairement un tabou. Et pour vous, c'est de l'analyse sociologique de ce groupe, de leur trajectoire sociale, mais aussi de l'évolution de leur emploi, de leurs conditions de vie ou de leurs conditions de propriétaire ou de locataire, que vont alors découler leurs choix électoraux. Et à travers les 8 chapitres, nous retrouvons donc les parcours de plusieurs habitants de cette vallée industrielle. Et ce faisant, vous tordez le cou à une idée largement répandue parmi les médias et soutenue aussi par certains géographes et sociologues qui, à grand renfort de cartes, font des espaces périurbains les principaux viviers de progression du vote FN. Et ce survote à l'extrême droite résulterait, selon eux, de l'abandon des classes populaires, d'une France périphérique qui aurait le sentiment de subir la mondialisation. Or, dès l'introduction, vous prenez le contre-pied de cette théorie. Ces votes ne peuvent pas être réduits à l'expression de frustration sociale de victimes de la mondialisation, dites-vous. Et de même, l'expression classe populaire, nous y reviendrons sûrement dans la discussion, ne doit pas s'entendre au singulier, mais plutôt au pluriel, quand leurs conditions de vie et de travail sont diverses. Je laisse maintenant la parole à Ophélie pour présenter les intervenants.
Donc, d'abord, Christelle Marchand-Lagier. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Vos recherches portent principalement sur le vote du Front National, l'abstention et les bases sociales et territoriales du vote. En 2017, vous avez publié l'ouvrage « Le vote FN pour une sociologie localisée des électorats frontistes », dans lequel vous analysez de façon approfondie les processus d'adhésion, en vous basant sur des entretiens qualitatifs auprès d'électeurs du Front National qui sont localisés dans un même espace géographique autour d'Avignon. Vous avez souligné dans ce livre qu'il n'y avait pas un électeur type, mais au contraire qu'il y avait une hétérogénéité importante des profils, de façon comparable à celle au profil de tous les autres votants du pays. Et Gérard Mauger, vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne. Vos travaux portent principalement sur les classes populaires, la jeunesse, la délinquance juvénile et leur représentation. Avec Willy Pelletier, vous avez coordonné la publication en 2017 du recueil « Les classes populaires et le FN », qui revient justement lui aussi sur certaines représentations qu'on peut se faire de l'électorat du Front National. Et parmi ces idées, notamment celle que le vote Front National aurait des causes différentes selon les espaces géographiques, et que ces causes seraient associées à des représentations dévalorisantes des électeurs frontistes. Donc maintenant, on va laisser la parole à Violaine Girard.
Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'accueil que vous nous avez réservé, et qui me permet donc de revenir, de présenter un peu cet ouvrage. Alors, je le dis un peu en préambule, et puis vous m'avez posé la question aussi à midi, mais donc c'est une enquête de longue durée. Je pense que c'est un peu la... la spécificité de cette enquête qui, au départ, n'était pas centrée sur l'objet vote et encore moins donc sur l'objet vote FN. Et donc, c'est une enquête que j'avais démarrée avant ce qu'on peut appeler une sorte de focalisation qu'il y a eu dans les médias, notamment en 2012, sur les territoires périurbains comme principaux viviers de progression des voix pour la candidate, donc Marine Le Pen, la candidate du Front National. Donc, c'est une enquête que j'avais démarrée dans le cadre d'une recherche doctorale que j'ai soutenue, donc une thèse que j'ai soutenue en 2009. Et puis, j'ai eu envie, j'ai eu l'occasion, parce qu'entre-temps, j'avais un poste d'enseignant-chercheur, donc de retourner sur ce terrain-là et de compléter un certain nombre de matériaux, de re-réaliser un certain nombre d'entretiens. Dans un second temps, donc en recontactant des enquêtés dont j'avais, avec qui j'avais maintenu le contact, au cours des séjours plus ou moins épisodiques que j'ai fait pendant la thèse. Et donc, ça m'a permis de mener une démarche finalement classique en sociologie politique, c'est-à-dire réencastrer les attitudes politiques dans des trajectoires résidentielles, des trajectoires sociales, des trajectoires professionnelles, réencastrer ces attitudes politiques et ces comportements électoraux dans un contexte territorial, en prenant notamment en compte l'histoire sociale locale, l'histoire politique du territoire. Mais du coup, c'est vrai que ce retour sur le terrain, il s'est axé quand même autour de... Donc, alors que la thèse était plus généralement consacrée aux transformations des catégories populaires dans un certain type de territoire, donc les territoires périurbains, le livre est revenu sur cette association étroite qui est faite dans les médias à partir de... Enfin, à l'occasion des présidentielles de 2007 puis 2012... entre un certain type de territoire et un certain type de vote. Alors, c'est des grilles de lecture un peu spatiales qui sont présentes dans les médias. Je ne vais pas y revenir en détail, surtout que la présentation est revenue un petit peu, mais on voit se développer. Donc, à partir de 2007, c'est présent dans l'ouvrage « La France des petits moyens ». En 2007, une opposition entre les zones pavillonnaires dans lesquelles les gens auraient plutôt voté pour le candidat Nicolas Sarkozy et les quartiers d'habitat social dans lesquels les gens auraient plutôt voté pour Ségolène Royal. Et puis en 2012, il y a vraiment, autour de l'IFOP et autour d'un consultant géographe, Christophe Guilly, une forme de mise en scène, de mise en lumière médiatique d'une figure sociale un peu nouvelle, figure des problèmes sociaux, une figure qui incarne donc... des transformations dans la France contemporaine, qui est cette figure des ménages dits modestes du périurbain, avec voilà, donc des sondages de l'IFOP à l'appui. En 2017, cette question revient et est un peu moins présente dans les médias, mais il y a eu encore des articles, donc je vous laisse lire les extraits, dans les banlieues pavillonnaires. Le FN ne cesse de progresser et on ne voit pas tellement le lien de cause à effet, mais de plus en plus de familles issues de l'immigration accèdent à la propriété dans ces zones pavillonnaires et donc le FN progresse. Je ne vais pas revenir en détail sur ces représentations médiatiques, mais en fait, ça m'a donné envie de montrer en quoi, enfin, de repartir d'une enquête donc, de longue durée pour déconstruire un certain nombre de discours. D'abord, et un certain nombre de représentations. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur, et vous le verrez, ça sera un peu dans le fil de la présentation, revenir sur le rôle des trajectoires résidentielles, car très souvent, il y a des corrélations qui sont établies dans les discours entre type d'habitat et type de trajectoire résidentielle, habiter dans de l'habitat individuel, dans du périurbain, et le vote. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, il y a un géographe, Jacques Lévy, je crois, qui avait déjà établi des cartes au moment des résultats électoraux du référendum européen en 2005 et qui disait que habiter dans les centres-villes, ça ouvrait à être cosmopolite, alors qu'habiter dans de l'habitat individuel éloigné des villes conduisait à rejeter l'autre. Donc moi, je voulais un peu contrecarrer ces formes d'explications en revenant notamment sur le rôle des transformations du monde du travail, sur les transformations de la socialisation professionnelle, des éléments qui me semblaient souvent absents des discours, notamment médiatiques. Un deuxième élément que je voulais questionner au travers de ce projet d'ouvrage, dans l'écriture de ce livre, c'est l'association assez étroite entre classe populaire ou ménage modeste ou difficulté sociale ou déclassement et vote FN. Alors, il y avait plein de recherches qui existaient et qui montrent la diversité sociale des électeurs, réguliers ou occasionnels d'ailleurs, du Front National. Et moi, je voulais donc me saisir de l'enquête que j'avais menée dans un territoire qui rassemble précisément une majorité d'habitants appartenant aux classes populaires, mais pour questionner, donc non pas le fait qu'il y ait des électeurs des classes populaires qui votent FN, ça bien sûr, non pas le fait que des classes populaires soient les seules à compter parmi les viviers d'électeurs du Front National, mais plus précisément pour questionner un schème qui était ce qu'est le schème du déclassement, c'est-à-dire que si les ouvriers et les employés votent FN, c'est parce qu'ils souffriraient de plus en plus, ils auraient de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, ils auraient forcément des trajectoires marquées par le déclassement. Voilà, alors ensuite, ça posait un certain nombre de questions, et notamment la question de revenir sur les caractéristiques sociales précises de ces ménages. En quoi, pour répondre à la question, en quoi appartiennent-ils aux classes populaires alors qu'ils se distinguent sur un certain nombre de plans, notamment sur le plan de l'emploi et sur le plan des trajectoires résidentielles, de groupes populaires qui sont aujourd'hui décrits comme étant les plus démunis. C'est-à-dire que je n'ai pas eu affaire sur mon terrain d'enquête à des ménages en proie à du chômage de longue durée. Je n'ai pas enquêté dans un quartier dominé par de l'habitat social, etc., etc. Donc voilà, plus précisément, j'ai rencontré des ménages d'ouvriers et d'employés, mais aussi de techniciens et d'employés qui accèdent à la propriété et qui connaissent, pour un certain nombre d'entre eux, des évolutions de carrière. Mais pour autant, leur position professionnelle les rattache bien aux classes populaires et on va y revenir. Alors, auparavant, j'avais juste, je l'avais noté dans le plan, revenir un peu sur cette association entre catégories d'espace, le périurbain, et les catégories populaires. Quand j'ai démarré ma thèse, c'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressée. C'était de repartir de cette définition par l'INSEE des territoires périurbains. Donc la définition de l'INSEE n'est pas du tout une définition basée sur des critères sociologiques. C'est une définition basée sur le type de bâti et l'attraction en termes de pôle d'emploi des aires urbaines. Donc voilà, j'avais mis la grille de l'INSEE, l'INRA-LINSEE, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cette catégorie donc territoriale, elle rassemble aujourd'hui un certain nombre d'habitants. C'est une catégorie qui se développe depuis les années 70 et 80. Et donc c'est une catégorie qui est hétérogène sur le plan social. Je renvoie aussi au travail d'un collègue géographe, Jean Rivière, qui a montré qu'on ne pouvait pas parler du périurbain, mais de différents types d'espaces périurbains. Et en même temps, on retrouve dans ces territoires un certain nombre de dynamiques sociales que moi, j'ai identifiées comme étant à l'œuvre dans le territoire dans lequel j'ai réalisé donc cette enquête monographique. Alors, le périurbain, c'est un type d'espace dans lequel les catégories populaires, si on les comprend comme rassemblant les CSP ouvriers et employés, donc c'est un type d'espace dans lequel les catégories populaires sont surreprésentées par rapport au poids qu'elles occupent dans l'ensemble de la population active en France. Donc voilà, on doit le... Le périurbain est loin de ne rassembler que des catégories populaires. Hein, les catégories populaires voisinent dans ce type d'espace avec d'autres, avec des ménages d'autres catégories sociales. Mais le périurbain est une catégorie d'espace dans laquelle les groupes ouvriers et les groupes d'employés se maintiennent et sont donc surreprésentés. Donc dans le territoire dans lequel j'ai enquêté, la vallée de la Riboire, comme je l'ai appelée, qui, si vous connaissez bien la géographie de la région lyonnaise, vous savez que c'est un nom d'emprunt. Donc cette vallée, elle rassemble en 2008, chez les hommes actifs, il y a près de 44% d'ouvriers, ce qui est plus qu'en moyenne nationale, hein, puisqu'on est à un tiers à peu près en moyenne nationale, et chez les femmes, 44% d'employés et 16% d'ouvrières. Donc presque des deux tiers des femmes qui appartiennent à ces catégories qu'on peut renvoyer aux classes populaires. Donc on a une surreprésentation de ces catégories populaires, et en même temps, pour chercher à comprendre cette surreprésentation, j'avais montré dans la thèse, ça renvoyait à deux processus. Tout d'abord, un processus qui est le mouvement d'accès à la propriété en cours depuis la fin des années 70, mouvement d'accès à la propriété des classes populaires, avec un certain nombre de politiques qui ont été étudiées, notamment par Bourdieu, je renvoie aux structures sociales de l'économie, et puis par d'autres collègues, notamment la sociologue Anne Lambert. Mais voilà, quand je rédigeais ma thèse, j'avais en tête ce chiffre. À la fin des années 80, un ouvrier sur deux est propriétaire de son logement et les ouvriers sont principalement devenus propriétaires en s'installant en pavillon individuel, en faisant construire dans la construction neuve à distance des centres-villes. Il y avait des chiffres de collègues de l'INRA qui montraient que ce sont principalement les ouvriers qualifiés et les professions intermédiaires qui s'installent massivement dans les espaces périurbains au cours des années 80 et 90. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est également que si les classes populaires habitent de plus en plus souvent dans les espaces périurbains, ce n'est pas uniquement en raison des prix du foncier, ce n'est pas uniquement parce qu'elles seraient contraintes de s'éloigner des centres-villes pour devenir propriétaires, c'est aussi parce qu'une part croissante d'un certain type d'emplois industriels se trouve rassemblée dans ces espaces-là. Donc il y a des économistes qui ont travaillé là-dessus et qui ont montré que dans la dynamique d'implantation des emplois, on a affaire à une décentralisation ou à une périurbanisation d'un certain nombre d'emplois, notamment dans des activités industrielles, l'industrie agroalimentaire, la logistique, etc., etc. Alors ces éléments m'intéressaient puisque moi j'avais affaire à donc, un territoire, c'est la vallée de la Ribeauharde, dans laquelle se trouve un parc industriel qui est en plein développement depuis les années 80. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, on y compte 3700 emplois en CDI en 2011. Alors, il faudrait que je revoie les chiffres aujourd'hui, mais voilà. Et puis, il y a une centrale nucléaire pas loin qui emploie également un certain nombre d'agents EDF, mais aussi un certain nombre de salariés d'entreprises sous-traitantes. Alors, ce qui m'avait intéressé dans la thèse, c'est que ce parc industriel, j'avais mis une photo, voilà. Ceux qui connaissent bien la région reconnaîtront, mais je ne dévoilerai pas le nom, voilà. Donc, ce qui m'avait intéressé, c'est que ce parc industriel, il rassemble plus d'une centaine d'entreprises. Et donc, j'avais, par exemple, les pourcentages de salariés qui travaillent dans des établissements de moins de 100 employés, etc., etc. Tout ça pour dire que donc, ces emplois sont éclatés, qu'il n'y a pas une identité ouvrière qui ressortirait, qu'il y a différents sites, des unités de production de grands groupes, mais qu'il y a aussi un grand nombre de PME sous-traitantes dans des secteurs divers. Il y a de la chimie, de l'agroalimentaire, beaucoup de logistique, de la production automatisée, de la maintenance, etc. Ces chiffres autour de ce bassin d'emploi local me permettaient de montrer que le déclin des ouvriers est loin de se jouer de façon uniforme dans l'ensemble du territoire français et de montrer également que s'il y a développement de la précarité, eh bien, il y a aussi des emplois plus qualifiés. Là, dans le bassin d'emploi, dans le canton dans lequel j'ai enquêté, il y a 40% d'emplois d'ouvriers, donc 21% d'emplois d'ouvriers qualifiés. Alors tout ça m'a amené à réfléchir également, à préciser le profil de ces ménages des classes populaires qui s'installent dans ce type de territoire périurbain, donc un type de territoire qui est loin d'être marqué par une déprise économique, mais qui est au contraire marqué par une dynamique de développement d'emploi. Alors j'ai utilisé deux méthodes complémentaires. J'aurais dû inverser parce que dans la thèse, j'avais d'abord réalisé les entretiens ethnographiques et cherché à caractériser les trajectoires de ces ménages avant de m'appuyer sur des données localisées du recensement, donc des données à l'échelle du canton, j'ai appelé le canton de Varieux, qui m'ont permis d'avoir un peu plus d'assurance pour exploiter des entretiens et pour donner finalement une portée à ce que j'observais dans les trajectoires, dans les récits de vie. Alors, ce que montrent les chiffres de l'INSEE à l'échelle de ce canton-là, pour continuer sur ces dynamiques qui touchent ces catégories populaires dans ces territoires-là, c'est que là, il y a beaucoup de gris, mais grosso modo, la composition de la population active est marquée par une surreprésentation des ouvriers, une sous-représentation des cadres et en même temps des dynamiques qui sont semblables à celles qu'on relève en France depuis les années 80. Donc les ouvriers sont surreprésentés, mais leur part diminue parmi la population active entre des années 80 aux années 2000-2010, sur une trentaine d'années. En même temps, je l'ai dit tout à l'heure, on observe une forte donc, surreprésentation des ouvriers et cette surreprésentation est beaucoup plus marquée si on prend en compte le caractère sexué du marché du travail, notamment celui du marché du travail chez les catégories populaires. Voilà, donc du côté des femmes, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 60, quasiment 60% de femmes employées et ouvriers en 2008. Ensuite, ce grand mouvement, cette dynamique, qui est finalement semblable à celle qu'on observe en moyenne nationale, même si les proportions sont un peu différentes, j'ai cherché à la préciser. Et j'ai pu, grâce au soutien des ingénieurs du CMH qui diffusent les données localisées des recensements, aller voir un peu à l'intérieur des catégories populaires. Et vous verrez que du coup, ça m'a amené à réfléchir en termes de fractions populaires, des fractions que j'ai appelées établies, et non pas de parler de l'ensemble des catégories populaires, ce qui serait bien présomptueux pour un terrain aussi localisé. Mais ce que j'ai repéré assez vite, c'est qu'en allant voir à l'intérieur donc, des grandes PCS, donc des grandes catégories du recensement de l'INSEE, c'est que chez les ouvriers, en fait, on a la baisse de la part des ouvriers chez les hommes actifs, elle est liée uniquement à la baisse des ouvriers non qualifiés. Et pour le coup, sur plus de 20 ans, 30 ans, on a dans ce territoire-là le maintien d'une proportion semblable, 30%, donc un homme actif sur trois à peu près, qui appartient à des professions qu'on rassemble dans la catégorie ouvrier qualifié. Et dans le même temps, la proportion de contremaîtres et de techniciens a plus que doublé dans la population active. Chez les professions intermédiaires, vous n'avez quasiment pas, chez les hommes, en tout cas, de professions intermédiaires du public. Vous avez très peu de professions intermédiaires commerciales et administratives. Et vous avez quasiment que des techniciens et des contremaîtres qui sont des professions liées à l'industrie. Et donc, tout ce travail-là m'a permis de, je trouve, d'avoir beaucoup plus d'assurance, enfin, je le trouve avec le recul, d'avoir beaucoup plus d'assurance pour restituer des trajectoires, notamment les trajectoires d'accession à la propriété, en disant que ce territoire était un lieu privilégié d'installation pour des ménages dont les hommes appartiennent aux salariés industriels plutôt qualifiés. Et donc des ménages qui accèdent à la propriété, qui connaissent des promotions résidentielles dans ce type de territoire à proximité d'un nouveau pôle d'emploi, même si un certain nombre d'entre eux travaillent dans l'agglomération lyonnaise, ils s'installent dans ce type d'espace où les prix du foncier sont peu élevés et où il y a quand même un certain nombre d'emplois à proximité. Alors chez les femmes, ce mouvement de reconnaissance des qualifications dans le bassin d'emploi local est un peu moins marqué, puisqu'on le sait, grâce aux travaux d'Alain Chenu, c'est les employés administratifs d'entreprise qui sont les employés dont les qualifications sont le plus reconnues. Et cette catégorie stagne un peu alors que les employés des services aux particuliers et les employés du public, notamment dans les municipalités, sont en progression. Donc voilà, mais tout ça pour dire que on ne peut pas, en tout cas, on est loin de pouvoir associer les trajectoires de ces enquêtés à uniquement des trajectoires de déclassement, de difficultés sociales, de relégation dans le périurbain. Alors, je vais décrire très rapidement quand même, parce que je voulais donner des exemples pour ne pas en rester qu'à des chiffres ou des grandes conclusions générales. Évoquer très vite la trajectoire d'un couple. Donc, il s'agit d'Alain et Valérie Clave. Alain est un ouvrier qualifié et donc son épouse Valérie est secrétaire de direction. Lui est né en 52, il a commencé à travailler très jeune. Il m'a dit qu'il a fait un apprentissage de métallier, serrurier, ce qu'on appelle maintenant les métalliers. Et puis, il m'explique qu'il a toujours travaillé, mais il s'est formé sur le tas, en pneumatique, en hydraulique, en électromécanique. Et il m'explique qu'il a fréquemment changé d'entreprise. Et il me dit, à une époque, je travaillais dans une société qui vendait du matériel de revêtement en peinture. Et cette boîte a commencé à battre de l'aile. Donc, j'ai décidé de changer. Et là, je suis partie en carrosserie industrielle des poids lourds. Donc, c'est l'installation des grues, des bennes qui sont sur les plateaux des camions. Et puis, peu après, je suis repartie dans l'ascenseur. Il me dit, donc, maintenant, je suis dans l'électromécanique. Et je travaille toujours dans la même société d'ascenseur. Mais maintenant, je suis calée au bureau. Il me dit, je m'occupe de la qualité et de la sécurité. Donc, cette trajectoire, elle reflète, en fait, il me semble, ce double mouvement à la fois de promotion professionnelle, c'est-à-dire qu'on a le cas d'un ouvrier qui travaille comme ouvrier, puis ouvrier qualifié, puis qui accède à un poste de contremaître, qui rentre donc dans la catégorie des professions intermédiaires en fin de carrière, à la cinquantaine, qui a un certain nombre de ressources pour se maintenir sur le marché du travail, se maintenir à l'abri du chômage. Mais en même temps, donc on voit que sa trajectoire, ce n'est pas une trajectoire de précarité. Et en même temps, elle est marquée par un certain nombre de formes d'instabilité conjuguées à de la promotion professionnelle. Et donc, cette promotion professionnelle se poursuit sur le plan résidentiel, puisque en 88, le couple se lance dans l'achat d'une maison qu'ils font construire sur un terrain de lotissement dans une commune donc, que j'ai appelée Mauvert, qu'ils ne connaissaient pas du tout auparavant. Et donc, ils me disent, voilà, on a fait connaissance avec les voisins. Quand on démarre avec une maison neuve, il y a toujours beaucoup de boulot. Donc, on passait des week-ends à la bétonnière. On se donnait des coups de main les uns les autres. Et donc, en fait, cette trajectoire renvoie au cas d'un certain nombre d'habitants dans ce territoire-là qui donc font construire s'insèrent dans un espace d'interconnaissance sur la scène locale. Donc voilà, alors pour reprendre les expressions, une expression d'Olivier Schwartz, ces ménages appartiennent à des groupes populaires qu'on peut qualifier de subalternes. Ils occupent des emplois qui sont au bas de la hiérarchie professionnelle, même s'ils disposent de certaines qualifications. Donc subalternes, mais non démunis, et notamment non démunis sur le plan économique. Et donc j'avais repris également un article de Gérard Mauger pour travailler sur la catégorie, la caractérisation de ces fractions populaires. Est-ce que ces ménages forment vraiment une fraction populaire fraction que j'ai qualifiée d'établie, au sens où c'est des fractions qui s'installent dans un territoire, qui connaissent des promotions résidentielles, et que ces promotions résidentielles s'appuient sur des formes de stabilisation dans l'emploi privé, avec qui s'appuie sur la reconnaissance d'un certain nombre de qualifications professionnelles. Alors, les parcours donc, de ces ménages sont éloignés de voies d'ascension sociale plus étudiées, plus connues, notamment des formes d'ascension sociale intergénérationnelle par la poursuite d'études dans le supérieur ou par l'entrée dans le secteur public, l'accès à un statut de fonctionnaire. Il y a notamment un article de Sybille Golac qui date de 2005 sur les voies d'entrée dans la fonction publique. Et donc la fonction publique a souvent été vue comme une voie de promotion et de stabilisation à bien des égards qui est à nul autre pareil, qui est des formes de stabilité bien établies. Donc là, on n'a pas ce type de trajectoire promotionnelle, puisque les trajectoires s'appuient sur l'acquisition de positions qualifiées, relativement qualifiées dans l'industrie, et pour d'autres habitants, un horizon d'accès à l'indépendance, et on verra que ça a aussi un certain nombre de conséquences en matière d'attitude politique. Donc j'avais noté, les aspirations de ces ménages s'inscrivent au sein d'un, si on veut réfléchir de façon un peu plus complexe qu'à juste une stratification sociale verticale, si on réfléchit en termes d'espace, des styles de vie, donc pour reprendre cette expression à Gérard Mauger, on peut dire qu'ils s'installent, ces ménages sont situés du côté des styles de vie conformes, plutôt du côté d'un pôle de l'embourgeoisement. Alors ça définit bien un processus, hein, et non pas, je ne suis pas en train de dire que ces ménages se sont tous embourgeoisés et tous de la même manière. Mais l'idée, c'est que leur installation en pavillon ne se traduit pas forcément par des modes de vie caractéristiques des classes moyennes à plus fort capital culturel. Ça s'accompagne plutôt du maintien d'un certain nombre de dispositions populaires, notamment dans le rapport au travail, mais aussi dans l'entretien de sociabilité à base locale, ou encore, de la même manière, dans l'engagement d'un certain nombre de ménages, dans des formes d'autoconstruction assez poussées. Voilà, alors cette distance vis-à-vis de trajectoires de promotion sociale qui passerait beaucoup plus par la réussite scolaire, la poursuite d'études, par l'acquisition de capitaux culturels, dont des diplômes, donc ces formes de promotion sociale plutôt ancrées du côté de carrières masculines dans l'industrie, on les retrouve dans deux aspects. D'abord, l'engagement dans un certain nombre de loisirs associatifs sur la scène municipale. Je ne vais pas détailler ici, mais il y a un chapitre de l'ouvrage qui est consacré à cet élément-là, qui peut paraître un peu annexe par rapport à la question du vote, mais qui permet de comprendre comment est-ce que ces ménages construisent aussi des formes d'entre-soi, en partageant un certain nombre de loisirs, plutôt des loisirs sportifs, des loisirs dans lesquels on met en œuvre un goût du travail manuel. On n'organise pas des concerts, mais on va plutôt monter une association pour s'adonner à l'aquariophilie, pour reprendre le cas de l'enquêté que je citais tout à l'heure, Alain Clave. Donc construire des aquariums automatisés avec des systèmes extrêmement poussés de technicité comme ça à l'œuvre dans ses loisirs. Donc voilà, pour dire que du coup, se créent des formes comme ça d'interconnaissance très poussées, se recréent, le terme village est dans le titre, mais des formes d'interconnaissance villageoise, qui vont ensuite se traduire par des rapports particuliers aux institutions politiques, notamment aux institutions politiques locales. Et puis, je disais tout à l'heure, le deuxième domaine dans lequel cette distance vis-à-vis de formes d'ascension sociale par l'école se repère, c'est dans les trajectoires intergénérationnelles, avec là aussi un chapitre de l'ouvrage qui n'était pas du tout présent dans la thèse, mais je me suis trouvée conduite à réfléchir à ça. Des formes de reproduction, ou en tout cas d'ascension sociale intergénérationnelle, qui passent plutôt par l'enseignement professionnel court, avec des familles qui vont privilégier des formes de, notamment d'apprentissage. J'ai un entretien que je détaille un peu dans ce chapitre avec une mère de deux enfants dont le mari travaille dans la sous-traitance nucléaire. Elle a fait des missions d'intérim dans la logistique avant de rentrer comme personnel de service dans une municipalité. Et elle m'explique que ses deux fils sont des MacGyver. Eux, ce qui les intéresse, c'est donc de la référence au personnage d'une série télé que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais qui, dans les années 80-90, voilà, donc c'est un personnage qui bricolait et qui trouvait toujours... voilà. Et donc, elle me dit, mes enfants, eux, c'est trouver des pannes, ce qui les intéresse. Et elle préfère l'apprentissage parce qu'elle me dit... le gamin, il ne fait pas que de l'école. Si ce qui ne l'intéresse pas, c'est l'école, s'il est scolarisé en apprentissage, il ne fait pas que de l'école. Donc, elle a un fils qui passe un CAP-BEP, puis un bac pro, puis qui continue jusqu'en BTS. Son père le convainc de continuer jusqu'en BTS et qui devient donc technicien. Donc, voilà, il me semble que ce sont des formes comme ça de promotion sociale, peu, en tout cas peu étudiées. Ou moins étudiée, on peut dire, que d'autres formes d'ascension sociale à partir des classes populaires. Voilà, donc là, j'avais mis une petite photo, je crois que c'est la fin du diaporama, on va terminer là-dessus. Alors, peut-être que la question qui se pose maintenant, c'est quel rapport de tout ça à la question du vote. Je l'ai dit en introduction, ce que j'avais comme envie dans l'écriture de ce livre, c'était de ne pas me limiter à la question des trajectoires résidentielles pour expliquer, comme facteur explicatif d'un certain nombre de choix ou de comportements électoraux. Du coup, ce travail sur la caractérisation sociologique plus précise, plus fine de ces fractions populaires, ce travail sur le bassin d'emploi m'ont permis de revenir sur un certain nombre de changements dans la socialisation professionnelle. Je renverrai à Patrick Lehingue, qui, dans un ouvrage sur le vote, nous dit, c'est un fait bien établi en sciences sociales, que les appartenances professionnelles continuent à être déterminantes pour saisir les positionnements politiques, les tendances, notamment pour comprendre également les tendances à la droitisation parmi les groupes ouvriers. Et donc, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de questionner ces appartenances subjectives plutôt que de prendre des grandes PCS et de dire, dans une démarche purement quantitative, X%. On sait très bien que le vote de la catégorie des ouvriers est éclaté, un certain nombre s'abstiennent, un certain nombre vont voter à droite, un certain nombre vont voter à gauche, un certain nombre vont voter Front National, etc., etc. Donc l'idée, c'était moi de revenir sur ces trajectoires professionnelles et de relever un certain nombre d'évolutions qui pouvaient expliquer des formes de droitisation, voire des formes de radicalisation par le passage au vote FN. Alors, en retraçant l'histoire du territoire local, j'avais retracé dans la thèse l'importance et le rôle d'un grand élu local d'origine aristocratique qui se faisait surnommer le Marquis dans la presse locale, député giscardien dans les années 80, et qui va promettre aux chefs d'entreprise qui viendraient s'installer sur le tout nouveau parc industriel, donc il leur promet la garantie d'un excellent climat social. Et en fait, derrière cette expression, ce qu'on voit à l'œuvre dans les archives départementales, c'est une politique qui est menée de deux manières. D'abord, une politique de lutte un peu contre les mobilisations syndicales, une politique, on pourrait dire, d'encadrement des classes populaires un peu à distance. On n'est pas dans un cas de paternalisme, mais on est dans un cas d'un grand élu qui contrôle un peu l'avenir de ce territoire et qui, donc, en attirant des entreprises sur un parc industriel, va offrir un certain nombre de débouchés professionnels aux enfants des ouvriers paysans ou des petits agriculteurs qui sont dans ce territoire-là jusqu'aux années 60-70, à un moment donné où dans les bourgs industriels de la région, dans les grosses concentrations industrielles de ce territoire-là, où il y avait des industries implantées de façon beaucoup plus ancienne, eh bien, les emplois industriels commencent à être supprimés à la faveur de plans sociaux. Donc au moment où s'engagent dans les années 70 des fermetures de sites, ou en tout cas des réductions d'effectifs dans des gros sites industriels qui sont situés à une vingtaine, trentaine de kilomètres de ce territoire-là, eh bien lui, ce député et conseiller général va s'engager donc dans une politique d'attractivité vis-à-vis des entreprises. Alors il va dresser l'image de, d'habitants de la vallée qui seraient ruraux et qui donc auraient, alors dans les termes des années 2000, c'est adhéreraient plus facilement à l'esprit d'entreprise que des ouvriers des grosses concentrations industrielles plus anciennes. Donc ça, c'est le premier volet de sa politique. Et le deuxième volet de sa politique, c'est une politique de refus du logement collectif. Il va refuser la construction, un projet de ville nouvelle qui était pourtant porté par l'État, et il va soutenir sans arrêt les élus municipaux des petites communes rurales qui vont refuser de construire des ensembles collectifs et refuser le logement social. Donc en favorisant une politique au niveau local, en relayant au niveau local la politique giscardienne de promotion de l'accès à la propriété chez les classes ouvrières, on a un projet finalement de contournement des forteresses ouvrières et donc de façonnement comme ça, en tout cas pas forcément d'une main-d'œuvre, mais de l'image d'une main-d'œuvre comme étant plus soumise aux impératifs de production dans les entreprises et comme étant moins revendicative. Donc ça, c'est un premier élément. Alors il ne s'agit bien sûr pas de dire que cette politique va conduire de manière mécanique, de manière automatique, à renforcer la droitisation des ouvriers ou en tout cas va conduire au vote FN. Mais il me semblait qu'en tant que sociologue, on ne peut pas ne pas relever qu'il y a certains effets, notamment en termes de socialisation, en termes ensuite d'attitude, de comportement politique. Alors un premier élément, c'est par exemple la faiblesse de la part de l'emploi public dans ce territoire-là. Alors, il ne s'agit pas de dire, là encore, que tous les fonctionnaires vont voter à gauche et que dans le secteur privé, on aura des ouvriers beaucoup plus à droite, mais on sait quand même, dans les grandes enquêtes quantitatives, que le secteur d'emploi, public ou privé, le statut, joue un rôle quand même sur la distribution des préférences politiques. Et donc là, ce qui est intéressant, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on prend la région Rhône-Alpes, dans l'enquête emploi, le bassin d'emploi dans lequel j'ai enquêté, c'est celui qui a la plus faible part de l'emploi public dans l'ensemble de l'emploi salarié. Donc tout ça pour dire que, très souvent, par exemple, on va dire oui, il y a disparition des services publics, donc les gens se sentent abandonnés des pouvoirs publics, donc ils vont voter FN. Alors je schématise un peu, mais on a des fois des liens de causalité comme ça, très, très automatiques, très simplistes dans les explications qu'on peut donner de ce vote. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, finalement, on a des gens qui construisent leur parcours de promotion sociale à distance des formes d'emploi public. Et donc, j'avais l'exemple d'un couple, pareil, né dans les années 50, dont le mari était tuyauteur dans le nucléaire. Mais sa femme me dit, il n'est pas EDF. Il est toujours resté dans la sous-traitance, les chantiers, les déplacements, ça, il a connu. Il part dans toute la France à l'occasion de sa carrière. Et sa femme, elle, tient une petite épicerie, donc l'enquêté que j'ai rencontré. Elle s'arrête de travailler à la naissance de ses deux enfants et ensuite elle retrouve un emploi de guichetière dans une agence postale, mais elle me dit « j'étais sans statut ni rien ». Donc elle insiste bien sur le fait que son mari n'a jamais été EDF et qu'elle est postière, mais sans statut ni rien. Et donc ce couple va parvenir, en économisant, à ouvrir un centre de service automobile où l'un de leurs fils, qui a une formation en mécanique, va travailler. Et elle-même, qui travaille à temps partiel de façon salariée, va travailler sur l'autre moitié de son temps à faire le secrétariat donc, de l'entreprise qu'elle a réussi à monter avec son mari. Et donc là, on voit, alors c'est un type de trajectoire particulier, c'est pas une trajectoire qui se veut exemplaire de l'ensemble de celles que j'ai retrouvées, mais on voit bien là que une source de fierté, ou en tout cas un horizon de valorisation professionnelle, c'est la mise à son compte. On retrouve là des formes de proximité, entre certaines fractions des classes moyennes, on pourra dire, autour de l'artisanat, et certaines fractions des catégories populaires, avec, là encore, on retrouve l'importance conférée aux acquis économiques et des souhaits de stabilisation professionnelle, mais donc qui ne passent pas par l'acquisition de diplômes ni l'insertion dans le public. Ce sont donc des formes de distance vis-à-vis autant de formes de distance importantes prises vis-à-vis d'appartenance ouvrière plus traditionnelle, ou en tout cas vis-à-vis d'appartenance ouvrière qui ont pu être étudiées comme conduisant à voter communiste ou à voter à gauche, etc. Donc tout ça pour dire que un premier élément qu'on peut avancer à partir de l'histoire de ce territoire et des trajectoires de ces ménages autour de la question de la droitisation, c'est que cette droitisation n'est peut-être pas si récente que ça, ou qu'en tout cas, c'est peut-être pas un processus complètement nouveau, et qu'au contraire, dans ce territoire-là, on avait affaire à des fractions populaires, ou en tout cas des groupes ouvriers liés aux salariés industriels qui étaient politisés à droite pour un certain nombre de familles, de plus longue date que juste aux élections de 2007 et encore moins celles de 2012. Alors, ce que ça permet de voir aussi, ce retour sur le bassin d'emploi, je vais essayer d'aller vite, c'est aussi des formes de proximité ressenties avec les dirigeants des PME. L'éclatement des lieux de travail fait que, je l'ai dit un peu tout à l'heure, il y a peu de présence syndicale, et que les salariés sont conduits à travailler en contact de chefs d'équipe ou de contremaîtres ou même des dirigeants parfois des entreprises de sous-traitance et sont amenés à parfois reprendre un peu les impératifs qu'on leur donne dans le travail et en tout cas à réfléchir aux propositions politiques sur le mode de est-ce que ça va vraiment être concrètement, est-ce que ça va vraiment être bien pour les entreprises, est-ce que ça va favoriser la santé économique des entreprises, etc. Donc j'avais relevé deux choses un peu dans les entretiens. Que les formes de fierté sociale reposent non pas sur une appartenance ouvrière, mais plutôt sur l'idée de faire ses preuves au travail, d'être impliqué dans son entreprise, de prouver qu'on est sérieux, qu'on est engagé dans le travail, etc. C'est un peu l'extrait d'entretien que je lisais tout à l'heure de cet ouvrier qui me dit qu'il a pas attendu que son entreprise ferme pour se retrouver au chômage, il a pris les devants, il a su se former sur le tas, aller travailler dans d'autres entreprises, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi donc l'idée de lire les propositions politiques avec certaines formes de scepticisme et de défiance qui sont très présentes chez les ménages auprès desquels j'ai enquêté sur les effets concrets des mesures politiques, c'est-à-dire une forme de défiance vis-à-vis des discours politiques. On n'est pas dans un désintérêt pur, mais on a des formes de scepticisme, pour reprendre une expression d'Olivier Schwartz, très très grande vis-à-vis des grands discours dont on se voilà et un certain nombre d'enquêtés qui se prévalent de dire mais moi je connais vraiment la situation dans les entreprises, telle mesure elle n'aura pas d'impact, etc. etc. À partir de là, ce qu'on peut dire pour en venir à la question du vote FN, c'est que du coup, ces formes de politisation conduisent à des trajectoires de conduite électorale, on peut dire, qui peuvent conduire à passer à un vote FN. Alors, ce sont principalement des personnes qui ont déjà plusieurs fois voté à droite ou qui s'abstenaient, qui votent FN. On a peu de parcours de gens qui sont passés directement d'un vote à gauche pour des partis dits de gauche à un vote FN. Il y a donc ces formes de scepticisme et de défiance qui conduisent aussi à des formes de participation intermittente. Et donc, il faut bien évidemment prendre en compte ce contexte-là pour replacer l'importance des votes FN dans des attitudes plus globales. Et le dernier point donc que je vais aborder, je vais essayer d'être assez rapide, c'est que ce que je voulais aussi montrer dans l'ouvrage, c'est que le vote FN s'appuie aussi sur des formes d'interconnaissance dans l'espace local avec différentes figures d'élus locaux qui sont des élus non professionnalisés, non encartés, donc ils n'ont pas d'étiquette partisane, qui ne sont pas militants dans des partis, qui investissent leur rôle sur le mode un peu du désintéressement, de l'engagement en faveur des voisins, des habitants de la commune, etc. Et ces élus locaux sont pour un certain nombre donc des techniciens ou d'anciens ouvriers qui travaillent également dans l'industrie et qui donc sont proches des ménages, des fractions populaires établies dans ce territoire-là. Et ces élus n'ont de cesse de de s'attacher à promouvoir les promotions résidentielles de ces ménages. Donc c'est, je parlais tout à l'heure de la scène associative et de l'entre-soi, ou en tout cas des formes d'interconnaissance qui s'y développent. Donc ces élus encouragent ces formes d'interconnaissance sur la scène associative et vont encourager un certain nombre de ménages qu'ils jugent respectables, des ménages qui ont une stabilité conjugale, des ménages qui sont des ménages de salariés ou d'indépendants, mais en tout cas des ménages qui ne recourent pas aux aides sociales. Et ces élus-là jouent un rôle très important dans le fait, alors le terme de banalisation n'est pas le terme le plus approprié, mais ces élus jouent un rôle dans le fait que le vote FN n'est pas la seule façon d'exprimer politiquement un rejet de certaines catégories sociales, et notamment des ménages racisés, c'est-à-dire des ménages associés à une origine ethnique ou culturelle supposée autre que l'origine française. Donc, c'est aussi quelque chose, il me semble, qui est important à prendre en compte quand on sait que le parti, le Front National, n'est pas un parti qui compte des militants. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de groupe constitué ou de militantisme acharné dans ce territoire-là. Et pourtant, les scores aux élections, notamment présidentielles, du FN sont supérieurs aux moyennes nationales dans ce territoire-là. Et un certain nombre donc, d'enquêtés de ces fractions populaires établies vont passer le pas de vote à droite vers des votes FN. Et donc, ce qui me semblait important de souligner, c'est que dans ce type de territoire où on a affaire à des communes rurales, où les mandats d'élus restent encore parfois des mandats, enfin assez souvent des mandats d'élus non professionnalisés, c'est-à-dire que les élus travaillent et ne tirent pas leurs moyens d'existence de l'exercice d'une profession politique, eh bien ces élus-là, qui ont des profils sociaux pas forcément d'originaires des classes supérieures, vont œuvrer à un certain nombre vont prendre un certain nombre de mesures, y compris sur la scène institutionnelle, donc municipale, un certain nombre de mesures de mise à distance ou de rejet de catégories sociales stigmatisées. Donc deux catégories, j'ai dit tout à l'heure, les ménages racisés, mais aussi des catégories plus précaires, stigmatisées comme étant des bénéficiaires des aides sociales. Et je renvoie à tous les discours publics qui sont développés pour stigmatiser les fractions les plus démunies des classes populaires. Donc voilà, il me semble qu'on a affaire aussi à des intermédiaires ou en tout cas à des figures d'élus locaux qui favorisent, ou en tout cas qui contribuent à rendre envisageable, tout à fait envisageable, le passage à un vote FN comme n'étant pas un vote condamnable moralement, etc. Voilà. Donc, au fil de, peut-être en guise de conclusion, dire que donc au fil de ce parcours, c'est finalement le portrait d'un territoire qui accueille un certain nombre de dynamiques sociales qui vont contre un certain nombre d'idées reçues. Donc un territoire qui accueille des fractions populaires établies. C'était pas forcément très simple d'écrire tout ça, de mettre tout ça par écrit, de parler par exemple d'embourgeoisement de ce pôle des classes populaires établies qui se situe du côté d'un espace des styles de vie conformes, parce que ben voilà, il y a quand même des ménages qui sont en difficulté, c'est quand même des ouvriers, des personnes qui ont des emplois situés au bas de la hiérarchie socio-professionnelle. Mais donc c'était pas forcément évident de mettre ça en avant, parce que on a l'image de baisse des emplois ouvriers et puis de précarisation, d'intensification des conditions de travail, etc. Donc mettre en évidence ces trajectoires de promotion résidentielle. Et c'était encore un peu moins évident de faire le lien entre ces trajectoires de promotion résidentielle et justement des formes ensuite d'expression politique tournée vers le vote FN avec, je ne l'ai pas dit juste, mais là je le redis juste hein, quand même, j'ai parlé tout à l'heure de l'abstention, des formes d'abstention et des formes de scepticisme, mais le vote FN ne peut se comprendre si on ne prend pas en compte aussi la distance de plus en plus grande de ces catégories populaires vis-à-vis des élites ou en tout cas des professionnels de la politique dans les partis dits de gouvernement ou les partis dits classiques. Et donc voilà, on ne peut pas comprendre non plus le passage au vote FN indépendamment des formes de défiance de plus en plus grandes qu'on a vis-à-vis de la classe politique insérée. Et donc voilà, dire que ce qui m'a paru important pour comprendre tout ça, c'était aussi d'intégrer, non pas simplement, donc je l'ai dit, je suis revenue dessus plusieurs fois, l'idée d'une pente de trajectoire des classements, mais du coup de complexifier un peu l'analyse sociologique des votes en prenant en compte un espace social à plusieurs dimensions, et notamment un espace social qui est polarisé autour de ces formes de capitaux économiques et ou culturels et de l'importance relative conférée à tout ça. Et je pense que Gérard pourra y revenir puisque c'est quelque chose aussi qu'il avait travaillé dans ces articles qui m'ont été très utiles pour réfléchir à ces dynamiques sociales. Voilà.